Donc là, je pique la place à Jean-O. Là. Je l'empêche de faire son one-man show. Mais le mois d'août, il n'y a pas beaucoup de monde, donc effectivement, les quelques-uns qui sont là se répartissent. Merci à, pour ce moment de louange et à, aux musiciens en particulier. Avec, dans les chants, il y a beaucoup de belles choses qui se disent, que l'on chante. Alors il faut, bien sûr, il faut essayer de chanter juste, hein. Ça, j'y tiens, ça me plaît. Mais il faut aussi chanter juste les paroles et les mots qu'on chante. Je crois que c'est important. Alors, la semaine dernière, Jean nous a encouragés avec l'idée que la rentrée est arrivée. Avec ces textes dans l'évangile de Matthieu, j'en relis quelques pincées pour ceux qui n'étaient pas là. Matthieu au chapitre 6. « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. » Ces textes voilà, m'ont fait réfléchir et m'ont amené à ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, un peu dans la continuité. Parce que cette fois, ça y est, la rentrée est là. Quoi. La semaine dernière, on pouvait se dire encore, non, il reste une semaine, de grâce matinée, enfin tout ça. Cette fois, c'est fait. Et pour chacun de nous, c'est la rentrée, pas seulement pour les jeunes hein, qui vont rentrer chacun dans ses classes, mais pour nous aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette année, mais jusqu'au mois de juillet, toute l'activité était quasiment normale. Et au mois d'août, ça a été un grand trou, c'était le grand vide. Et puis maintenant, les choses redémarrent, les activités se remettent en place. On a vu tout à l'heure hein, les activités de l'église, mais aussi professionnelles. Et puis aussi, le rythme familial doit se recaler sur voilà, les passages obligés chaque jour de la semaine. Et qu'est-ce qui nous attend cette année de changement dans nos vies, changement autour de nous, changement dans le monde, changement heureux ou malheureux, hein, on verra bien. Mais au contraire, certains redoutent peut-être que ce soit malheureusement une continuité insipide, où 2018 sera comme 2017, et voilà, il n'y a rien qui change dans ma vie, c'est triste. Qu'est-ce qui nous attend ? Et je vous propose de commencer en lisant un texte de l'Épître aux Hébreux. Je vais commencer la lecture de chapitre 4. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est écrit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Stop, j'arrête là, vous comprenez rien. Hein ? C'est du charabia, n'est-ce pas ? C'est un texte qui est compliqué à lire, comme si j'ose dire, l'Épître aux Hébreux, c'est du chinois, quoi. C'est, hein, si on peut se permettre de dire. Et pourtant, c'est une épître qui est importante dans le thème que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre la lecture, mais dans une autre version. Vous savez que je relis en ce moment tous les livres qui avaient été écrits par Alfred Kuhn dans son temps, avec une version un peu plus accessible, je veux dire, de textes, et en particulier de textes compliqués comme celui-là. L'Épître aux Hébreux, elle est écrite par un auteur qui n'a pas signé. Alors, il y a des tas d'hypothèses. Hein. C'est Paul, c'est Luc, c'est Barnabas, c'est Silas, c'est Apollos. Voilà, il y a tout un tas d'hypothèses diverses. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, elle dit pourquoi elle a été écrite dès les premiers versets. Je vais quand même vous lire les premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Après avoir autrefois, c'est plus compréhensible que le texte que j'ai commencé à lire, hein, c'est pour ça que je me permets de le lire dans une version autorisée, si j'ose dire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, là on fait référence à tout ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers, disait celui qui écrit cette épître. Il a établi Jésus héritier de toutes choses, car c'est par lui qu'il a fait le monde. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, la mort et la résurrection de Jésus sur la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien supérieur au leur. plus clair déjà. Et c'est le thème de cette épître aux Hébreux, qui est effectivement un texte difficile à lire, parce qu'il fait référence à des tas de notions qui ne sont pas du tout dans notre culture, on va en commenter quelques-uns. Mais le thème et tout ce qui va être dit de cette épître, c'est d'expliquer à quel point Jésus-Christ est celui qui, par-dessus toutes les représentations que l'on a pu mettre en place, accomplit pleinement et parfaitement le plan de Dieu, le plan de salut de Dieu pour chacun d'entre nous. Et que seule la foi, et non pas toutes les constructions humaines, cultuelles ou intellectuelles, mais seule la foi nous permet de l'accepter et d'y accéder. Alors on va relire le texte que je voulais lire tout à l'heure, donc dans une version que vous écoutez, qui a le mérite, me semble-t-il, d'être écrite avec des mots un peu plus simples. Je la trouve là-dedans, mais ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. J'aurais dû... Voilà. Et vous allez voir pour quelle raison je dis que c'est la continuité, ce que Jean-Haut nous a dit la semaine dernière. Ne vous inquiétez de rien. Dieu a promis que nous pourrons entrer dans son repos. Et cette promesse est valable. Il ne faudrait pas que l'un ou l'autre d'entre vous vienne à en être privé, faute d'avoir saisi l'occasion en temps voulu. Car à nous aussi, cette bonne nouvelle a été annoncée. À nous aussi, comme à tous les prophètes et tous les gens de l'Ancien Testament. Assurément, la promesse nous a été faite, comme aux contemporains de Moïse. Si la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas acceptée avec foi. Quant à nous, c'est dans la mesure où nous croyons que nous entrons dans ce repos dont il est question, dans ce psaume qui dit « Alors je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi a parlé Dieu. Pourtant, son travail était achevé depuis la création du monde. Dieu se reposa le septième jour de tout son travail. Si donc, dans ce psaume, il dit « Ils n'entreront pas dans mon repos », c'est bien qu'il avait l'intention de les faire entrer dans un repos. Ainsi donc, puisqu'il est assuré d'une part que Dieu réserve ce repos à quelques-uns, et d'autre part que les premiers invités n'y sont pas rentrés à cause de leur manque de foi, Dieu donne une autre occasion et il fixe un nouveau jour, aujourd'hui. C'est ce qu'il fait bien longtemps après, lorsqu'il dit par la bouche de David, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. » Il ne s'agissait pas seulement de l'entrée en Canaan, parce que si Josué avait assuré aux Israélites un vrai repos dans la terre promise, il n'y aurait pas besoin d'en reparler. Le véritable repos de sabbat, un repos semblable à celui de Dieu le septième jour, reste donc en réserve pour le peuple de Dieu. Et il est accessible aujourd'hui. Celui qui a trouvé le repos de Dieu et qui y est entré se repose de son travail comme Dieu du sien. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe comme les Israélites d'alors. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle, jusqu'à la ligne de séparation entre l'âme et l'esprit. Elle discerne, elle révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. J'espère que c'est un tout petit peu plus clair que ce que j'avais commencé à lire. Non ? D'accord. Je vous ai déjà perdu tous. On va essayer de rattraper les affaires. La première chose qu'il faut entendre, c'est que Dieu a promis. Le début de ce que j'ai lu, c'est « Dieu a promis que nous pourrions entrer dans ce repos et cette promesse reste valable. Il ne faut pas donc que nous nous en privions. » C'est la première chose qu'il faut retenir de ce texte. Ce que Dieu veut pour nous, c'est non seulement, dans la suite de ce qui a été dit dimanche dernier, que nous ne nous inquiétions pas, je crois que c'est comme ça qu'il faudrait dire grammaticalement, mais il faut que nous sachions saisir, que nous arrivions à saisir cette promesse. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu une consigne à respecter, Et puis en même temps, dans les textes qu'on avait lus, c'est hein, qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie. Donc d'un côté, on donne une consigne, mais d'un autre côté, on dit que de toute façon, on n'y peut pas grand-chose. Alors dans le texte que nous avons lu, là, l'auteur s'adresse à des Juifs, donc des gens qui connaissaient bien leur histoire sainte, et il fait référence à un épisode historique qui est raconté deux fois dans la grande saga du Pentateuque. Une fois au début de la pérégrination du peuple d'Israël dans le désert, c'est dans l'Exode, chapitre 17, et puis une autre fois à la fin, c'est dans les Nombres, au chapitre 20. Soit parce que l'événement s'est effectivement produit deux fois, mais de façon tellement semblable qu'on a même donné le même nom au lieu, Meriba, soit parce que dans cette histoire, il fallait insister sur le fait que le peuple n'avait pas cru dans la parole de Dieu et qu'il n'arrivait pas à être prêt à entrer dans le repos de Dieu. Alors on va lire peut-être le deuxième récit dans les Nombres au chapitre 20. Donc les Nombres, hein, c'est le quatrième livre du Pentateuque, le livre qui un peu termine la pérégrination, puis après il y a le Deutéronome qui va faire un espèce de grand résumé de tout ça. Dans les Nombres, au chapitre 20, toute la communauté des Israélites arriva dans le désert de Tsin. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. On s'assembla contre Moïse et Aaron. Le peuple contesta avec Moïse et ils dirent que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir, décidément, je bafouille, l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans cet endroit mauvais? Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a pas d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Tombèrent face contre terre et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends le bâton, assemble la communauté, toi et ton frère Aaron, vous parlerez sous leurs yeux au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau ?» Et Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. J'arrête là la lecture. Dieu avait promis d'amener son peuple dans un pays. Il avait fait une promesse, même quand, pour des raisons de famine, la famille de Jacob a dû descendre en Égypte pour trouver à manger. Joseph savait qu'un jour Dieu allait faire remonter son peuple. Si vous lisez les derniers versets du livre de la Genèse, Joseph, au moment de mourir, à 110 ans, dit « Voilà, un jour l'Éternel vous visitera et vous amènera dans son pays et vous ferez monter mes os, vous transporterez mon cercueil, mon cadavre, pour que je sois enterré dans la terre de mes pères. » Dieu avait promis cela. Et pourtant, le peuple n'a pas cru. Et pendant 40 ans, alors que pour traverser le bras de désert, il aurait peut-être fallu 15 jours, quoi, peut-être un peu plus, parce qu'ils étaient nombreux, puis il y avait des troupeaux, il ne fallait pas aller trop vite. Allez, mettons un mois et on n'en parle plus. Et il leur a fallu 40 ans. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans. Et tel que les récits nous sont donnés, dans l'Exode 17 au début, et puis en Nombre 20, ils ont tout le temps, ils ont été en proie à ces doutes. L'Éternel a promis, mais finalement, pourquoi vous nous avez fait monter en Égypte? D'Égypte, là-bas, on pouvait planter que s'il y a des figuiers, des bananiers, des je sais pas quoi, des grenadiers. On avait de l'eau à boire, alors qu'ici, on souffre, on n'a rien, on est dans la difficulté. Dieu avait promis, mais le peuple n'a pas accepté. Et dans le texte qu'on a lu dans l'Épître aux Hébreux, il y avait une citation qui était faite d'un psaume, le psaume 95, qui disait « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je disais « C'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. » Alors je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et donc c'est la vision qu'a le psalmiste de la conséquence de ce refus du peuple de saisir la promesse de Dieu, de la saisir et d'avancer avec cela, en voyant dans tous les signes que Dieu envoyait les manifestations de cette promesse. Hein, c'est la manne, c'est la colonne de feu, c'est la nuée, c'est toutes ces choses-là qui, pour nous, quand nous les lisons aujourd'hui, on dit quand même, ils auraient pu comprendre, c'est pourtant évident, hein, que Dieu était avec eux, il le manifestait dans des combats aussi contre des tribus hostiles qui venaient leur chercher des noises, et Dieu était avec eux tout le temps, et pourtant, ils ont passé leur temps à tourner en rond dans le désert, et du début jusqu'à la fin, ils ont continué à mettre en doute la promesse de Dieu. Et donc, cette génération-là n'a pas pu entrer dans le repos de Dieu. Alors, c'est bien de regarder dans le passé, l'histoire. Elle est importante pour comprendre, pour faire notre culture, mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous avez remarqué ce mot dans le psaume, qui est aussi cité dans l'épître que l'on a lu ce matin, ce mot « aujourd'hui ». L'épisode de l'Exode, celui des Nombres, est utilisé par le psalmiste et plus tard par l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour nous dire qu'il y a une vérité fondamentale. Il ne faut pas juste regarder ce qui s'est passé dans le désert. Il ne faut pas juste regarder ce qui se passe chez un tel ou un tel à côté de moi ou dans une autre église ou dans telle ou telle circonstance. Non, c'est moi, aujourd'hui, comment je me saisis de la promesse de Dieu. Moi, aujourd'hui, comment je me mets en marche pour pouvoir véritablement ne pas être privé. Hein, vous avez vu tout à l'heure, il ne faudrait pas que certains d'entre vous se privent de la promesse de Dieu. Et nous le faisons parfois par notre vie. Nous le faisons par notre attitude. Nous le faisons parce que nous sommes peut-être pris par d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce développement qu'on a eu tout à l'heure, quand il dit cette histoire de promesse, ce n'est pas l'entrée dans le pays de Canaan, parce que sinon Josué, il aurait eu fini le boulot, etc. Ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est que ces textes anciens s'adressent à nous et que le repos que Dieu nous promet aujourd'hui pour ne pas nous inquiéter du lendemain, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas l'entrée dans la terre promise, ce n'est pas le paradis de futur, mais ça nous concerne et ça nous concerne aujourd'hui. Le prophète Ésaïe disait des choses très belles. Ésaïe 30, verset 15. « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » On s'arrête souvent au verset, là, mais ça continue. « Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, non, nous pourrons fuir à cheval. » C'est pourquoi vous allez effectivement fuir. Non, non, nous monterons sur des coursiers très rapides. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront auront aussi des coursiers très rapides. Voilà tout ce que dit ce texte. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, parce que vous appuierez sur le repos de l'Éternel, mais saisissez-vous de là. Parce que sinon, vous serez tout le temps en train de fuir après des gens qui seront aussi rapides que vous, qui auront des coursiers, des chevaux aussi rapides que vous. Je reviens à notre psaume 95. Regardons un peu comment il est construit, ce psaume, qui est très beau. Voilà les cinq premiers versets. « Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes. Lançons vers lui une joyeuse clameur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. » On croirait notre temps de louange, là, peut-être, hein, avec des chants où on chante, et c'est bien. La grandeur de Dieu, sa gloire, sa puissance, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait. Et puis le psaume continue, « Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait, qui nous a fait. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Et là, c'est la suite, c'est l'engagement de chacun. C'est l'engagement personnel, où non seulement nous déclarons que tout ce qui existe est fait par la main de Dieu, que c'est un grand Dieu au-dessus de toutes choses, mais ça nous concerne. Et alors nous sommes engagés à nous prosterner devant lui, à le reconnaître comme le Seigneur. Et puis tout de suite derrière ce texte qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa. » Et c'est le texte que j'ai lu. Et tout de suite derrière, et c'est valable pour chacun de nous, après la louange, on est exalté. Après des moments peut-être d'intense engagement, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu. Et c'est vrai pour chacun de nous ici, moi le premier. C'est aujourd'hui que nous sommes appelés à entendre l'appel de Dieu et à y répondre. Peut-être pour une conversion radicale, peut-être pour une remise en ordre dans nos vies, peut-être pour régler un problème avec un frère, une sœur, peut-être pour nous engager dans un service ou sur une voie où l'inquiétude est là. Dieu nous connaît tous et chacun, mais il nous dit « J'ai préparé pour toi le repos. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, réponds-y. » Chacun de nous est appelé à ne pas ignorer ces petits signes que le Seigneur nous envoie, comme tous ces signes qu'il avait envoyés au peuple. Ce n'était pas petit, hein, c'était un peu miraculeux, la nuée, les choses comme ça, l'écaille, la manne, bon, ça dépasse un tout petit peu ce que sans doute on vit les uns et les autres au quotidien. Mais tous ces signes que Dieu envoie dans notre vie par les circonstances, par ce que nous lisons, par les rencontres que nous faisons, tout cela, nous sommes appelés à les entendre et à être prêts à bouger. Et paradoxalement, c'est dans la mesure où nous allons répondre à cet appel et où nous accepterons de nous mettre en marche, comme le Seigneur le dit, que nous nous reposerons. Le repos, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas les RTT, ce n'est pas les week-ends, etc. Ce n'est pas ça le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est d'être là où nous devons être, avec lui, dans une attitude confiante, non pas insouciante, non pas déconnectée de la réalité, mais confiant la main dans la main du Seigneur. Alors comment faire, hein, une fois les belles théories, comment faire? Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Ça ne vous énerve pas, vous, tous ces textes qui nous disent ça. T'énerve pas, t'as qu'à faire confiance, tu n'es pas seul, etc. En fait, dans la vraie vie, parfois on est seul. Parfois on est inquiet, légitimement. Parfois on a du mal à faire confiance, et faire confiance à tout le monde. Donc notre vraie vie, elle est qu'effectivement nous sommes soumis à cette pression-là. Alors je vais lire deux textes dans l'Évangile. Où le Seigneur lui-même nous appelle à le suivre. Un premier que j'aime beaucoup, dans Marc, enfin je les aime tous beaucoup, mais bon, j'aime bien ce que j'ai choisi aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Dans Marc au chapitre 6, les apôtres reviennent, ils ont fait une grande campagne d'évangélisation. Ils sont crevés, mais en même temps, ils ont fait des trucs sans sas. Marc 6, verset 30, les apôtres se rassemblent auprès de Jésus et ils lui racontent tout ce qu'il a fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils étaient proches du burn-out, comme on dit aujourd'hui, hein, tellement ils avaient fait chauffer la machine, les disciples. Et le Seigneur leur dit, mais attendez, venez vous reposer. Et alors tu parles d'un repos. Lisez la suite de l'histoire, parce que là aussi on s'arrête souvent ce verset-là, parce qu'il est utile pour certains commentaires. Mais la suite de l'histoire, c'est que la foule a bien vu qu'ils partaient. Ils ont tous suivi Jésus. Et Jésus les a enseignés toute la journée. Et puis à la fin de la journée, ben, ils étaient encore là, et Jésus leur dit, ben, maintenant, il faut leur donner à manger. Et tu parles d'un repos, il a fallu nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Alors c'est quoi le repos de Dieu? C'est pas, encore une fois, d'aller faire la sieste. Jésus leur a pas dit, allez faire la sieste. Il a dit, mettez-vous à l'écart. Et ils étaient reposés, pourquoi? Parce qu'ils étaient avec lui. Parce qu'ils ont vécu cette journée avec le Maître. Ils l'ont vu enseigner, ils ont entendu ce qu'il enseignait aussi, puisqu'ils étaient là. Et ils ont vu le miracle s'accomplir quand, avec effectivement très peu de moyens, ils ont pu nourrir toute cette foule. Ils sont tous partis, il y avait du rab à la fin, ils ont ramassé, enfin vous connaissez cette histoire, c'est la première multiplication des pains dans l'évangile de Marc. Le voilà le repos. Le repos avec le Seigneur, c'est d'être avec lui véritablement, et non pas simplement d'être actif dans notre action pour là, dans les circonstances d'évangélisation. Et puis un autre texte, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, qui nous montre aussi ce qu'est le repos de Dieu. Chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Et là encore, le repos avec le Seigneur, ça n'est pas ne rien faire. Ça n'est pas se déconnecter de ce qui fait notre inquiétude peut-être, ou qui nous charge. C'est prendre le joug. Je mettrais plutôt ça négativement quand même. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un joug, hein. Tout le monde sait ce que c'est le joug. Une espèce de pièce de bois qui doit peser, je ne sais pas, 10 kilos, 15 kilos. qu'on met, alors ça, selon, il y en a qu'on met juste devant les cornes, derrière les... Enfin, voilà, on attache deux bœufs ensemble, et le fait de les attacher ensemble va leur permettre de tirer une très lourde charge. Et moi, je me rappelle, gamin, à la campagne, là, en Haute-Loire, des charges avec des charrettes à foin, avec des montagnes de foin dessus, et juste deux vaches ou deux bœufs qui tiraient ça par l'intermédiaire de cette pièce de bois qui était à joue. Et c'est ça que dit le Seigneur. Vous êtes fatigué et chargé, alors prenez le joug. Alors c'est vrai que j'ai regardé dans Wikipédia ce matin, j'ai trouvé une chose intéressante sur le joug, parce que je voulais savoir combien ça pèse, et en fait je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé autre chose que je trouve intéressant néanmoins, le commentaire où il dit des exemples d'utilisation du joug, et il cite ce texte, dans l'Évangile, Jésus dit, chargez-vous de mon joug, etc., etc. Et la suite du commentaire, je la trouve intéressante. On interprète souvent de nos jours cette phrase comme un appel à une forme de soumission. Ah, c'est peut-être ça que vous avez pensé, hein. Prendre le joug, ça y est, tac, on va comme ça. Alors que, de son temps, dans une société agricole, tout le monde comprenait que c'était une proposition de partage de nos tâches et de nos fardeaux. C'est ainsi qu'on peut donc entendre le mot, par exemple, conjugal. Ça vient du même mot, le joug. C'est un appel à partager en couple les joies et les peines. Et prendre le joug du Seigneur, ça ne veut pas dire prendre une charge et être soumis ou soumis à une religion, à des rites, à des choses à faire, des choses à ne pas faire. Non, c'est accepter d'être attaché avec lui et partager avec lui l'effort, partager avec lui la charge. Et à deux, nous allons pouvoir tirer cette grosse charrette qu'est la vie. Nous allons pouvoir tirer tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous allons pouvoir véritablement avancer. Et nous serons dans le repos que Dieu veut pour nous. Et c'est cette image-là qu'il faut avoir. Le joug, c'est pas... Bien sûr, il y a quelque chose qui s'est attaché aux cornes, là, avec du système de lanière en cuir, des trucs comme ça. Mais ça veut dire surtout qu'on va être... On va partager la tâche, parce que le Seigneur lui-même est prêt à la partager avec nous. Et quand il dit « Je suis doux et humble de cœur », c'est-à-dire, voilà, je m'offre à vous, je m'offre à toi, pour partager avec toi les difficultés de la vie, pour que véritablement tu puisses comprendre ce que veut dire « ne vous inquiétez de rien, à chaque jour suffit sa peine ». Oui, parce que la peine, le Seigneur me dit « j'emporte la moitié avec toi, j'en tire la moitié avec toi ». Mais alors bon, Jésus n'est pas présent avec nous. Hein. Il y a plus de 2000 ans que le peuple de Dieu continue à être pour certains fatigué, à chercher un repos qui peut-être ne vient pas. Même l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas connu Jésus. Il le dit au chapitre 2 que c'est des gens qui lui ont raconté comment les choses s'étaient passées. Et pour terminer, on va revenir à notre texte dans l'Épître aux Hébreux. À partir du verset 11, « Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe. » comme les Israélites d'alors, dans l'incrédulité et la désobéissance. Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, tout paraît à découvert, aux yeux de celui à qui nous aurons à rendre compte. La parole de Dieu. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et y entrer. Et le secret, c'est dans la parole de Dieu. Ce texte est souvent utilisé pour faire peur. Attention, la parole de Dieu, tu ne pourras rien cacher, hein, parce que c'est comme une épée, elle va les couper, elle va enlever ce qui est mauvais, elle va tata, séparer les choses. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je pense qu'on peut l'apprendre aussi de façon beaucoup plus positive. La parole de Dieu, c'est entre autres la Bible que nous avons entre les mains, mais c'est aussi Dieu qui nous parle, et Dieu nous parle de mille et une façons. La parole de Dieu, c'est aussi quelque chose qui peut nous être comme, j'allais dire, comme un outil. Parce que pour nous, si nous nous saisissons de la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu, elle va nous aider effectivement à discerner. Elle va nous aider nous-mêmes dans notre vie à trancher, à couper, à choisir, à aller dans le bon sens, à prendre les bonnes décisions pour aller dans la direction de ce repos. Corriger les erreurs, certes, extirper le péché, parfois nécessaire, mais aussi nous révéler qui nous sommes, quel est le plan de Dieu, comment répondre à ce qui nous arrive pour continuer à avancer. La parole de Dieu, c'est non seulement le glaive de la justice qui condamne les fautes, qui les pointe, qui effectivement veut les enlever, mais c'est aussi un outil qui va nous aider dans la vie de tous les jours à prier, à choisir, à décider, à nous orienter. Et nous avons vu que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, et c'est comme ça que nous allons pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos que Dieu nous promet, c'est se laisser guider par sa parole qui peut nous éclairer. On l'a chanté juste avant la prédication. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. C'est le psaume 119. Cette promesse qui reste valable pour nous. Alors, voilà, c'est le temps de la rentrée pour tout le monde. Et vraiment, nous sommes invités par la parole de Dieu à nous engager aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine, mais aujourd'hui, à nous saisir de cette promesse, puisque nous l'avons vu, Dieu a promis que nous pouvons entrer dans son repos, et cette promesse est valable. Il faut simplement que nous sachions nous en saisir. Parce que l'Éternel, Dieu nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin, et c'est lui-même qui va nous le donner. Ne vous inquiétez de rien, dit l'apôtre Paul aux Philippiens, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, il aurait pu dire le repos de Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce que tu as en réserve pour chacun de nous dans l'année qui s'ouvre. Nous ne savons pas voir l'avenir, nous ne pouvons pas imaginer. Chacun a des projets, chacun a des plans, ou n'en a pas. Mais Seigneur, pour chacun, tu as quelque chose qui peut nous faire avancer, pour mieux saisir ce repos que tu veux nous donner, pour qu'effectivement, nous puissions ne pas nous inquiéter, nous puissions avoir en toi une pleine confiance. Alors, petits et grands, que tu puisses vraiment tous nous parler, nous prendre par la main, pour que nous puissions vraiment être saisis par ce repos que tu donnes quand nous te faisons confiance. Amen.